VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest. Le groupe Ansarul Islam, opérant dans le nord du Burkina Faso, désormais dans le collimateur des États-Unis. Washington vient de l'ajouter sur sa liste noire et a imposé des sanctions à ce groupe islamiste, Abdourahmin Dia.
Selon le département d'État, cette décision a pour objectif de priver Ansarul Islam des ressources dont il a besoin pour planifier et mettre en œuvre de nouvelles attaques terroristes. Cette mesure s'accompagne de sanctions financières et interdit aux citoyens américains d'engager des transactions avec ce groupe. Ansarul Islam est un groupe djihadiste basé au Burkina Faso. Il a lancé de nombreuses attaques dans le nord du Burkina, près de la frontière avec le Mali. L'initiative indique au public américain et à la communauté internationale qu'Ansarul Islam a commis ou présente un risque important de perpétrer des actes de terrorisme, a dit le département d'État dans un communiqué. Le groupe djihadiste Ansarul Islam avait revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabé ces derniers mois, dont une qui avait fait 12 morts dans les rangs des militaires en décembre 2016.
Afrique de l'Ouest toujours, l'ex-star du football George Weah, le tout nouveau président du Liberia, élu fin décembre et investi le 22 janvier, effectue en France sa première visite officielle hors du continent africain. Les précisions avec Dili Diko.
Le président libérien George Weah sera reçu aujourd'hui à l'Élysée par le président Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail en présence de nombreuses personnalités du monde sportif, du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop, et du directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux. Hier, lors d'une conférence débat organisée au Conservatoire national des arts et des métiers à Paris, le président du Libéria a déclaré avoir hérité d'un pays sans argent et plombé par les malversations politiques. Il a également affiché sa ferme volonté de rompre avec la corruption endémique dans son pays, une promesse de campagne. L'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC a aussi souhaité renforcer la relation bilatérale, malgré la barrière linguistique séparant le Libéria anglophone et la France. Face aux étudiants venus assister à la conférence, George Weah a mis en avant son autre priorité, la jeunesse. « Je ferai tout mon possible pour soutenir le secteur de l'éducation qui ne reçoit actuellement que 2% de notre budget national », a-t-il conclu.
Remaniement ministériel au Gabon, plusieurs ministres changent de portefeuille et le ministre de l'Agriculture, Yves-Fernand Manfombi, est limogé. Claire Morin-Gibault.
C'est le ministre en charge des affaires présidentielles, Étienne Massard-Kabinda-Makaga, qui a fait l'annonce. 9 ministres voient leur portefeuille changer avec 2 créations de ministères. Le ministère de la Pêche qui revient à M. Rossatanga Rigno et le ministère d'État de la Protection sociale qui revient à Paul Biyogemba. Jean-Yves Théal, diplomate de carrière et conseiller diplomatique du président Ali Bongo Ondimba, remplace Guy Rossatanga Rigno au secrétariat de la présidence. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Yves-Fernand Manfumbi, a été limogé, remplacé par Biendi Maganga Moussavou. Le ministre de la Justice change aussi de portefeuille. Francis Nkea Dingue était sur la sellette. Les magistrats en grève depuis fin 2017 réclamaient sa démission. Le Gabon se prépare à des élections législatives devant se tenir avant fin avril selon le gouvernement. Prévues initialement en décembre 2016, ces élections ont déjà été reportées 2 fois.
En RDC, un élu de l'opposition poursuivi pour offense au chef de l'État a été jugé dans sa chambre d'hôpital à Kinshasa. Sa défense dénonce ce qu'elle appelle un acharnement du pouvoir, Eddy Isango.
Le député provincial de Kinshasa, Gérard Moulumba, a comparu hier devant un tribunal qui a siégé dans son lieu d'hospitalisation selon son avocat. Pour Maître Léon Gombois, les pouvoirs veulent le faire condamner par tous les moyens à travers un procès qui n'en est pas un. L'élu local souffre de complications rénales selon son frère aîné, un autre député du nom de Léon Moulumba. Selon lui, Gérard Moulumba n'a pu ni parler ni bouger de son lit d'hôpital lors de cette audience. Son avocat brandit pourtant une ordonnance du parquet largement partagée sur les réseaux sociaux autorisant depuis 2 semaines Gérard Moulumba à suivre des soins dans un centre hospitalier approprié. Il s'étonne que la libération provisoire de son client, décidée par les parquets, soit toujours bloquée. Gérard Moulumba a été arrêté le 10 novembre à l'aéroport de Kinshasa, détenu au secret, puis transféré le 19 janvier dans une clinique de Kinshasa. Il est membre de l'UDPS. Il risque au maximum une peine de 2 années de prison selon son avocat. Le tribunal a promis de se prononcer sur son cas dans les 48 heures.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Tchad, l'UJT, l'Union des journalistes tchadiens, lance une journée sans presse ce mercredi pour dire non aux agressions dont sont victimes, selon elle, les journalistes dans l'exercice de leur métier. Plus de détails sur les plaintes des grévistes avec le président de l'UJT, Belmgar Larmé Laguerre.
Les journalistes en reportage dans les lieux de manifestation et des locaux des médias deviennent des cibles de la police déployée pour réprimer ces manifestations après même les avoir bien identifiées, auxquelles s'ajoutent des appels anonymes, menaces verbales et filatures des confrères correspondants des médias internationaux par des individus se réclamant des agents de renseignement. Dans ces conditions, quelle que soit la volonté des professionnels, l'exercice du journalisme leur est ainsi presque impossible.
Belmgar Larmé Laguerre, président de l'Union des journalistes tchadiens. En Afrique du Sud, la ville du Cap connaît sa pire sécheresse depuis plusieurs décennies. Pour beaucoup d'habitants, particulièrement ceux des townships, les banlieues noires, l'eau était déjà chose rare. Et maintenant qu'on leur demande de ne plus le gaspiller, certains estiment qu'ils ne peuvent pas se serrer davantage la ceinture. Un reportage d'Anita Powell, rendu par Anastasie Toudièche.
Aussi loin qu'elle puisse se le rappeler, Wale Kazirangana a toujours traité l'eau comme un liquide précieux. Mais ça n'était pas par choix. En 53 ans, elle n'a jamais pris de douche. Son logement social dans la banlieue pauvre de Kayelicha n'a pas de toilettes intérieures. Pendant des années, son mari, ses enfants, ses petits-enfants et elle-même se sont lavés avec un petit seau d'eau. Et elle ne comprend pas pourquoi certains habitants du Cap font autant de bruit au sujet des nouvelles mesures d'économie d'eau.
Il y avait quelque chose qui clochait car pendant longtemps, il avait de l'eau en abondance et nous étions ceux qui ne devaient pas en gaspiller. Cette situation a changé. Si nous faisions attention à l'eau, maintenant ça nous concerne tous. C'est comme si nous étions dans le même bateau.
Sa voisine, Tombikaïsé Dondi, assure que la sécheresse et les restrictions l'ont sévèrement touchée. Elle avait l'habitude de s'occuper d'un petit jardin potager. Maintenant, elle n'a que 3 rangées d'épinards flétris et des choux-fleurs desséchés, faute d'eau.
This garden makes me cry.
Cela me fait pleurer parce que j'avais l'habitude de nourrir ma famille avec ce jardin.
Les scientifiques essaient toujours de comprendre les causes de cette situation difficile. Ils citent le changement climatique comme une cause évidente de la sécheresse. Aussi, la ville a été trop dépendante de la pluie pour alimenter ses réserves d'eau qui se sont évaporées après 3 années de sécheresse. Maintenant, c'est la bousculade, de jour comme de nuit, autour de plusieurs sources naturelles où les habitants peuvent remplir les bidons jusqu'à 25 litres d'eau par personne. La crainte de tout le monde, c'est d'arriver au jour zéro, ce jour fatidique où l'eau cessera de couler au robinet. Initialement prévu le 4 juin, il est maintenant repoussé au mois de juillet. La ville envisage plus de 200 points de distribution d'eau. Jean Gordon habite le Cap depuis 70 ans.
Nous avons toujours pris l'eau comme acquise. Maintenant, nous savons ce que c'est de se battre pour l'eau.
Pour faire face à la situation, elle a dû faire quelques ajustements qu'elle annonce avec le sourire.
Moins de douches, partager la douche avec son mari.
Dans les zones les plus pauvres, comme à Kayelicha, où beaucoup d'habitants s'approvisionnaient à la fontaine publique, cette pénurie ramène les mauvais souvenirs de l'époque de l'apartheid. Mpumi Malisi est activiste.
La future bataille ne sera pas une lutte pour la liberté, mais une bataille pour l'eau.
En attendant, tous les habitants du Cap, qu'ils soient blancs ou noirs, riches ou pauvres, vivent dans la hantise du jour zéro et d'un avenir incertain.
Et pour terminer, guerre en Syrie, l'armée de l'air syrienne a repris ce mercredi ses raids intensives sur la Ghouta orientale, un fief rebelle près de Damas, faisant 5 nouveaux morts parmi les civils et plus de 200 blessés. Depuis dimanche, plus de 250 civils, dont près de 60 enfants, ont péri dans des raids aériens. Merci de votre attention.